Vincent Yor, mettez du respect sur notre invité Sylvano est dans CSO ce soir. Salut Sylvano.
Salut Valentin, salut à tous les supporters lensois. Ça c'est pour Guillaume.
Ben ouais, je regarde. Sylvano qui est auditeur assidu Culture 100 Yor, réagissez dans les différents chats de l'émission. On cible tout de suite la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture 100 Yor sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Et puis rendez-vous sur le site web de Culture 100 Yor, culture100yor.com, pour y trouver plein d'articles sur le club. Quel superlatif peut-on encore trouver pour qualifier cette équipe dans cette saison de tous les records? Le Racing repousse toujours plus les limites, points, victoires, chiffres, émotions, mais aussi détermination, solidarité, don de soi, intelligence ou talent. La plume sans erreur est en train d'écrire une magnifique page de son histoire. Alors Lens ne sera probablement pas champion de France, même si c'est pas joué. Pourtant, les hommes de Francaise ne sont plus qu'à 3 matchs de nous offrir une saison qui restera inoubliable, une saison où semble-t-il rien ne peut leur arriver. On atteste encore cette victoire de vendredi, qu'on débriefe tout de suite avec un premier tour de table. La question, je vous la pose. Je vais commencer avec Damien. Damien, est-ce que pour toi, ce résultat est inespéré?
Alors, un petit peu, oui, dans le sens où avoir ce carton rouge plus ce penalty, mener 0-1, on se dit bon, ben, ça va être compliqué, sachant que Reims était très bien rentré dans la partie. Mais c'était sans compter sur les hommes de Francaise qui nous ont sorti un match, mais qu'on peut qualifier d'héroïque, parce que franchement, défensivement, les mecs ont été des chiens et ils n'ont rien lâché, ils sont allés la chercher et ils l'ont mérité.
Greg, je passe à toi. Est-ce que c'est une victoire inespérée pour le Racing face à Reims?
Bah, vu le contexte de base, c'est-à-dire il pleut sur Bollaert, tous les groupes de supporters sont pas là, l'entame est pas terrible, carton rouge, penalty, je dirais inespéré. L'égalisation est inespérée pour moi parce qu'elle tombe vraiment, un peu, c'est un penalty qui tombe du ciel, hein, une faute, une erreur absolument dingue du défenseur et moi, il y a pas lieu de faire faute. Donc inespéré à ce moment-là, et puis mérité sur l'ensemble de l'implication de chacun qui va jusqu'à la toute dernière seconde avec Seko Fofana qui fait un sprint de 782 km je crois sur la dernière action et toute l'équipe qui remonte le bloc jusqu'au bout. Donc inespéré, oui, parce que c'est vrai que c'est des scénarios complètement dingues auxquels finalement les 100 heures nous ont habitués depuis un an, mais vraiment mérité et qui vient couronner vraiment une implication de tous sur tous les ballons.
Sylvano, est-ce que tu veux réagir? Est-ce que pour toi c'est une victoire inespérée ce match face à Reims?
Comme le dit Greg, au vu du contexte et puis au vu de l'entame de match, effectivement, on peut dire qu'on revient, de loin. Il y a qu'un but d'écart, mais avec l'expulsion, forcément, c'est toujours plus compliqué, quoi. Donc inespéré, au vu du contexte, ouais, on peut dire oui.
Allez, on termine avec Antoine Combes. Victoire inespérée pour toi ou pas?
Pas inespéré, surtout vu les 20 premières minutes à 11 contre 11 et la qualité de l'adversaire, où vraiment moi je m'attendais à avoir un rouleau compresseur et moi, et qu'on n'a pas réellement vu finalement. Oui, on a vu un peu le manque de maturité, je pense, de l'équipe rémoise, mais qui est fait un peu penser à Lens dans l'année de la remontée en termes de gestion des moments du match. Et donc c'était inespéré, mais finalement jusqu'à la 40e, où c'est eux-mêmes qui nous ont donné l'espoir d'y croire, quoi.
Parce qu'après l'égalisation, Greg, toi tu t'es dit que c'était possible de gagner ce match?
Bah, disons que fatalement, surtout en fait le quart d'heure entre l'ouverture du score rémoise et l'égalisation, on va dire le gros quart d'heure, on est quand même plus proche d'un déséquilibre lensois qui, je trouvais que Lens avait évidemment perdu le fil tactique un peu, même si il y a eu une restructuration notamment avec le passage de Machado un peu plus bas, mais on sentait que à chaque perte de balle du Racing, notamment dans le cœur du jeu, il y avait des vraies situations de surnombre pour les Rémois à ce moment-là, et c'est pour ça que le penalty vient vraiment rééquilibrer psychologiquement le match. Alors évidemment numériquement non, techniquement peut-être un peu, mais c'est surtout psychologiquement, parce que à ce moment-là évidemment Reims avait réalisé une très très bonne entame de match qui avait été validé par ce but, par ce carton rouge. Enfin, il y avait tout pour que ça déroule côté Rémois. En plus, une équipe libérée qui avait plus forcément non plus de pression. Et c'est vrai que ce penalty change tout. Et après, par contre, psychologiquement, ouais, le Racing a inversé le rôle avec en plus Bollaert derrière. Et encore une fois, je leur dis une force mentale, physique, tout ce que vous voulez. Ça m'a rappelé juste le match contre Nice l'année dernière où Lens commencerait très mal le match dans l'entame, ouais. Où Massadio Aïdara se fait expulser au bout de 17 ou 20 minutes de jeu. Et c'est bizarre, mais derrière, bah, finalement, Lens s'impose 3-0 en marquant deux buts, notamment en infériorité numérique face aux Niçois. Donc voilà, ce qui est dingue, surtout, c'est cette confiance qui naît de ces scénarios répétés finalement sur un an. On a l'impression que même à Bollaert, les gens se disaient, mais en fait, c'est possible avec cette équipe, c'est possible. Et je pense que les joueurs le pensent aussi. Une fois que vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, que vous avez inversé des scénarios en infériorité numérique, en fait, vous paniquez moins probablement que d'autres équipes et vous vous dites que c'est faisable. Et alors, en plus, vous amenez un de la confiance interne à l'équipe et aussi à l'environnement. Et je pense que Bollaert s'est toujours dit que c'était possible. Et ça, c'est assez dingue. C'est ce qui amène cette équipe de Francaise et notamment et Francaise et le staff et toute l'équipe qui arrive à voilà rejaillir cette confiance à tout le monde au stade.
On a vu la stat passer. Hein, je crois que c'est les 5 derniers matchs où Lens a été réduit à 10 au stade Bollaert. Il me semble, il n'y a pas une défaite. Il me semble le match nul face à Nantes la saison dernière où le Racing est mené 2-2 notamment. Il y avait ce match face à Nice aussi. C'est une stat qui montre la force mentale, la force morale. On va y revenir hein, évidemment. Je voulais quand même revenir sur le stade de Reims parce que je sais pas si ça t'a fait cette impression là, Damien, mais moi Reims, je trouve que c'est un des adversaires qui nous a mis le plus en difficulté, en tout cas à 11 contre 11. Hein, je parle bien dans les 20 premières minutes. Qui nous a mis le plus en difficulté, notamment tactique, notamment sur la pressing, sur nos deux relanceurs, Medina et Jonathan Grady. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Alors, complètement d'accord avec toi, Valentin. Là où ils nous ont embêtés, c'est dans la transmission. À la fois Balogun et Ito étaient placés justement dans la relation entre nos pistons et nos centraux excentrés, on va dire, entre Medina et Gradit. Mais également, ils nous ont fait mal dans le cœur du jeu. Enfin, Mounetzi a complètement gêné Abdoul Samed pour être la rampe de lancement, en fait. Enfin, c'était hyper compliqué. Alors déjà, à 11 contre 11, c'était difficile pour Samed. Mais alors, sur la fin de première mi-temps, ça l'a été encore plus avec l'expulsion de Danso. Mais clairement, ils nous ont fait très mal sur le pressing. Mais comme à chaque fois, le Racing, comme l'a si bien dit Greg, a trouvé les ressources mentales et physique pour aller plus loin et bizarrement avec cette équipe elle est tellement sûre de ses forces que rien ne peut finalement la gêner, la contrecarrer et elle finit toujours par l'emporter mais c'était un joli coup tactique de la part des Rémois avec ce 4-3-3 qui nous aura vraiment bien gênés.
Ouais. On a vu un Medina notamment en difficulté, hein, quelques relances dans l'axe qui étaient pas très bien faites de la part de l'Argentin. Finalement, Antoine, on a l'impression que ce penalty, ce carton rouge, c'est un petit peu le tournant du match et peut-être le déclic du match aussi pour le Racing.
Bah, tournant du match, oui. Hein, n'importe quel carton rouge, je pense, est un tournant. Mais là, il vient encore plus sanctionner, entre guillemets, parce moi, je trouve pas qu'on fait une mauvaise entame, hein, par contre. De Reims fait une bonne entame tactique. Mais moi, je trouve pas qu'on est vraiment mauvais, parce que on était quand même présent. Oui, Reims nous a gênés, mais on n'était pas non plus vraiment à court de solution. Là où on était vraiment gênés, c'était les pertes de balles au milieu de terrain. Et là, par contre, c'était contre sur contre. Ça m'aide totalement absent sur les 20 premières minutes. Mais oui, forcément, le carton rouge vient changer la donne. J'ai envie de dire, et paradoxalement, généralement, c'est pas comme ça que ça arrive. Il arrive sur le meilleur poste, finalement, le carton rouge. Parce que généralement, Francaise, quand on passe à 10, nous sort une défense à 4. Et donc là, finalement, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu besoin de faire un changement. Donc ça perturbe aussi un peu moins l'équipe. Alors que au moment où Samet prend son rouge à Paris, là, on prend l'eau, on prend 3 buts. Tu vois, le temps de se remettre. Alors que là, finalement, c'est j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est paradoxal. Parce que tu prends un rouge, généralement, tu sors un attaquant, tu mets un défenseur. Et là, finalement, et c'est ça qui est incroyable aussi avec la gestion de Francaise sur ces passages en infériorité numérique et qui est largement salué. Après, ce qui est frustrant, c'est que, et ça c'est plus en termes d'observation tactique, c'est que Francaise a dit après le match justement qu'il allait changer quelque chose dans l'animation pour répondre justement à ce que mettait en place Reims. Bon, on saura jamais ce qu'il voulait mettre en place, mais oui, forcément, le tournant du match est à bien des écarts et notamment vis-à-vis de Bollaert, qui était plus ou moins timide de par le contexte de la Marek, et qui a tout le monde, je pense, a un peu dit bon ben il y a un jour en moins. C'est à nous vraiment à faire le taf pour les pousser, quoi.
Ouais. Et donc finalement le Racing hein, égalise juste avant la mi-temps, peut-être au meilleur moment, hein, que ce soit pour lui, que ce soit pour contrecarrer les Rémois. Et puis une deuxième période où on assiste encore à un exploit de celui qui débloque les matchs qui sont souvent difficiles, hein, notamment cette saison du côté du Racing. Seko Fofana qui nous offre encore un but dont il a le le secret, hein, c'est ça qu'on dit. Même si pour une fois c'est pas le genre de but qu'on a, en tout cas le genre de frappe qu'on a l'habitude de voir. Greg, t'as été surpris de voir Seko Fofana marquer ce but un peu différemment?
Bah ouais, parce qu'il ferme son pied et qu'on a tous l'habitude. D'ailleurs, quand il réussit son crochet extérieur qui passe l'épaule, bon déjà tu sais que plus personne reviendra, mais moi presque machinalement tu regardes le poteau opposé déjà parce que tu te dis il va envelopper et puis là bah il ferme et je pense que c'est ce qui en partie certainement fait que le gardien Rémois reste sous scotché, mais voilà, juste pour revenir sur Seko, c'est quand même extraordinaire. Moi je veux bien, on en a déjà parlé, mais entendre qu'il fait une saison un peu moins bien, etc., tout est relatif. Hein. Franchement, je pense que les gens sont un peu durs parce que encore une fois, il a tiré 6 fois sur la barre. S'il y avait eu 2 ou 3 de là-dedans,
presque la moitié, ouais.
Et puis c'est pas des petites frappes, c'est des vrais. Ça aurait été des buts extraordinaires à chaque fois. Rien que la moitié, on aurait déjà une toute autre vision statistique de sa saison. Mais c'est surtout ce qui dégage comme voilà, il emmène tout le monde avec lui. C'est quelqu'un qui ne se cache jamais. Alors oui, il réussit pas tout, c'est qu'il y a, évidemment c'est, je sais pas pourquoi les gens imaginaient que c'était Superman aussi. Des fois il va louper des passes dans le dernier tiers du terrain qui paraissent simples et qui ne sont pas finalement, parce qu'au départ il a fait 80 mètres de course pour arriver jusque là. Mais c'est surtout voilà, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Et là, il a pris ses responsabilités comme il les prend souvent, comme il l'a pris contre Marseille. Dans les gros matchs, c'est pas un hasard si dans les gros matchs, c'est lui qui fait basculer les matchs. On dit souvent, c'est là qu'on voit évidemment les guides et les patrons. Et à chaque fois, il est présent dans ces matchs-là. Donc depuis 2 ans, c'est quand même rarement loupé dans un match en jeu face à une grosse équipe. Et c'est pas parce qu'il aime la lumière, c'est juste que ces matchs-là, ils sont faits pour des joueurs comme lui et qu'il se cache pas, il y va. Et en plus, là, défensivement, enfin, on peut tout dire. Moi, je suis vraiment il y a aussi le simple fait, je pense, que les joueurs autour de lui sont meilleurs globalement que les années précédentes, au tout cas de la saison dernière, et que fatalement, Lens est beaucoup moins séco-dépendant, probablement. Ouais. Bon, il y a d'autres joueurs qui arrivent à prendre la lumière, notamment évidemment Loïs Openda, par exemple, devant. Donc voilà, mais ouais, non, mais quel match, quelle dépense d'énergie, qu'est-ce qu'il dégage. Et fatalement, quand tu as un mec qui porte le brassard et qui fait ces efforts-là et qui en plus est décisif, je pense que tu portes vraiment tout le monde sur ton dos et ça donne des Frankowski qui te dépassent encore plus, ça donne des Machado qui prennent le couloir, ça donne tout le monde suit Guy, quoi, et c'est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve que le match de Seko Fofana, même si on pourra tout
on va le noter, hein, on n'en fait pas trop non plus, on va le noter.
Autant pour moi, non, pardon, excuse-moi.
Silvano, comment t'as ressenti ce match? Parce que c'est vrai qu'il y avait une ambiance particulière du fait des absences en tribune notamment. Il y a eu ce début de match aussi, pas forcément à l'avantage des Lensois, ce carton rouge. Comment toi, du bord terrain, t'as ressenti un petit peu l'ambiance générale? Est-ce que c'était un petit peu différent d'habitude? Est-ce qu'il y avait un petit côté irrationnel sur ce match-là?
Irrationnel, non, je pense pas. Après, il y a vachement plus un truc de fou là, une grosse averse pendant 15 minutes. C'était vraiment donc on prend le but, enfin tout s'enchaînait. Je dis waouh, la soirée elle va être. Je pensais que ça allait être. Franchement, j'étais parti dans ma tête, c'était le match allait être super long, ça allait être hyper complexe. Enfin voilà, j'étais déjà en train de me dire bon, si on revient un partout déjà, bon allez. Et puis finalement, les choses se sont décantées. Puis comme on parlait de Seko, ben il a donné le ton encore une fois. Voilà, si on comparait, c'est le franchise player quoi. Enfin voilà, c'est lui. Dans ces moments-là, il arrive toujours à venir, à apporter. Il court vers le banc. Il porte les gens, comme le disait Greg. Et donc, ouais, avec Seko, on n'est jamais sûr de rien. Ça peut, faut lui faire confiance. Ça peut se décanter à n'importe quel moment. Ouais. Et puis par rapport au match, eh bien, irrationnel, non, c'est pas le terme. Mais c'était une soirée un peu bizarre, effectivement, ouais. Surtout un match le vendredi, enfin il y a plein de petits trucs qui faisaient que ça, on s'attendait à un match compliqué, on l'a eu, mais le groupe il est habité par quelque chose, je pense. Enfin, je pense qu'ils savent où ils veulent aller.
C'est en ça que je parlais d'un peu d'irrationnel, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un truc magique autour de cette équipe, quoi, qui fait qu'il peut pas lui arriver grand chose encore une fois.
Ouais, bah là sur ce scénario là, voilà, c'est, tu te dis bon, encore 3, mais enfin voilà, les la pièce tombe souvent du bon côté, quoi.
C'est vrai qu'en ce moment, le Racing réussit bien son sprint final. On va en reparler dans un instant, puisque le Racing aussi est sûr de terminer sur le podium à 3 journées de la fin. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable également. Mais comme je le disais, gagner ce genre de match, Damien, est-ce que c'est pas un signe que vraiment le Racing va aller au bout, quoi? Quand je dis au bout, terminer au moins deuxième.
On a l'impression que rien peut nous arriver, en fait. Clairement, moi, je me dis... Franchement, cette équipe, elle est partie pour avoir plus de 80 points. Non seulement, en plus, on sera pas champion. On n'est pas certain d'être deuxième, mais c'est un truc de dingo, quoi. Enfin, franchement, limite, cette équipe n'a pas de chance de tomber dans cette période-là où, normalement, tu peux être champion, tu peux être en mission. Enfin, limite, ça peut laisser un petit goût d'inachevé, mais alors que pas du tout. Enfin, faut vraiment qu'on kiffe ce moment, parce que c'est absolument énorme ce que les mecs sont en train de faire. Enfin, sur le terrain, ça se bat comme des chiffonniers. Tout à l'heure, Greg évoquait justement Frankowski. Enfin, son débordement là sur la Le Pagnot, il a fait le tour de la Le Pagnot et tranquillou, il a récupéré le ballon. Non, mais sérieusement, Bollard se lève à ce moment-là. Il est passé sur Silvano. Enfin, tu vous imaginez quand même.
Je le vois sur. Ah, je dis, il a disparu de mon radar. Là, il était où?
Et pourtant, des gens qui ont réussi un grand pont sur Silvano, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, j'ai déjà vu jouer au football.
Très peu de gens savaient faire ça. C'est juste parce que je suis large.
Mais c'est énorme. Enfin, franchement, tous les supporters du Racing attendent ça depuis des dizaines d'années. Enfin. On a vécu une telle période de merde, disons-le, que là, on ne peut que kiffer, prendre du plaisir et voir des mecs qui se battent comme ça, qui correspondent à ce qu'on attend. Bah, voilà, c'est absolument énorme.
Juste prendre un petit exemple, tu parlais de statistiques, mais pour donner un peu la mesure de ce que fait le Racing Club de Lens aujourd'hui, vous vous souvenez de l'équipe, peut-être pas tous cette saison en mémoire, parce que j'imagine que vous avez voulu l'oublier, mais le LOSC qui a été champion en 2011 avec Eden Hazard, avec Gervinho, avec So, qui avait quand même une énorme équipe quand même, cette équipe elle a fini championne avec 76 points. Ça veut dire que Lens aujourd'hui est à 75 et il lui reste 3 matchs pour faire par exemple mieux mathématiquement et comptablement qu'avait fait cette équipe qui pour le coup avait survolé le championnat de France à l'époque et avait fini avec beaucoup de points d'avance sur le PSG, je crois. Donc voilà, ça dit tout en fait, cette stat elle dit tout. C'est dans un championnat, dans une vie normale en fait, le Racing serait encore en course pour le titre et le mériterait peut-être. Voilà.
Mais ce qui est hallucinant, c'est que là le Racing n'est même pas encore sûr de terminer à la deuxième place. Je veux dire, le Racing fait Antoine Combes une saison record dans son histoire, n'aura probablement pas le titre parce que ça va être très compliqué, mais il n'est même pas encore assuré de terminer deuxième également, quoi. Ça prouve à quel point la saison est incroyable et pourtant le Racing n'a pas de certitude.
À côté de ça, il est quand même déjà la certitude d'être sur le podium à 3 journées de la fin. Quand on est le Racing Club de Lens, c'est quand même pas mal. Hein.
Ouais, vas-y Antoine.
Parce que Lens fait une saison historique, mais dans la journée, j'ai vu aussi une stat sur Marseille. C'est la deuxième fois, je crois, dans leur histoire qu'ils ont autant de points à ce moment de la saison.
Ouais, bien sûr.
Donc oui, Lens fait une saison historique, mais Marseille fait aussi une saison historique et ils peuvent se dire la même chose parce qu'ils sont qu'à 2 points. Donc c'est autant frustrant, je pense, pour eux que pour nous. Et voire peut-être plus pour eux encore parce que de par la stature du club. Mais comme le disait Damien, de toute façon, c'est que du kiff. Moi, j'aurais aucun regret, même si Marseille nous passe devant, mais ils nous passeront pas devant. Donc ce sera que du kiff.
Et Angers fait une saison historique, il peut repasser devant le RC Lens aussi.
Oui, ce serait très bien. Alors, moi, j'espérais une victoire hier, mais bon, tant pis.
C'est un peu moins glorieux, mais c'est vrai que si ça pouvait être effacé du côté du Racing, ça, on s'en plaindrait pas. On va noter des joueurs sur ce match, messieurs. Je vais donner à Damien Seko Fofana, dont Greg a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on est obligé de le noter, Seko.
Je vais lui mettre un 9. J'aurais bien aimé aller jusque 10, mais bon, un bon 9 parce que voilà, enfin, il a jusqu'à la dernière seconde, il a couru, il a pressé, il a été présent, il met ce deuxième but miraculeux, fabuleux, tout
il finit sur les rotules à la fin, on a vu les images.
Et tout de suite, il s'écroule. Alors, en plus, Valentin, enfin, c'est marrant parce que c'est le premier joueur que je regarde justement au moment du coup de sifflet Fennel. Mes yeux se portent vers lui et je le vois s'écrouler et enfin soulagé, heureux, enfin. Et tout le monde vient vers lui. C'est vraiment l'aimant. C'est l'aimant de ce groupe. C'est vraiment le capi-chef. Enfin, voilà, c'est qu'au Fofana, on en verra peut-être pas beaucoup dans les prochaines années des comme lui, et on peut être heureux de l'avoir vu sous le maillot lensois, même plus qu'heureux, c'est fabuleux, voilà.
Allez, je vais donner à Antoine Combe, premier choix Frankowski.
Ouais, j'ai dit entre le 7 et le 8, mais je suis tellement fan du joueur qu'il est devenu entre le moment où il est arrivé et le moment où gros 8. C'est, je pense, le premier joueur qui m'a fait apprécier l'intelligence de jeu. Depuis le stade, en tout cas, forcément, il y a toujours une différence entre l'appréciation entre le stade et la télé. Et il respire tellement l'intelligence, il fait toujours le bon choix. Il faut la passe est trop risquée, je vais revenir derrière. Je vais monter quand il faut monter. Je perçois l'appel. Je vois l'espace. C'est pour moi le joueur le plus intelligent que j'ai vu à Lens. Bon, forcément, j'ai 26 ans, donc je les ai pas tous vus, mais je suis archi fan de l'intelligence, vraiment de l'intelligence du joueur, et c'est vraiment le premier joueur, c'est le premier mot qui me vient en parlant de ce joueur. Donc juste pour souligner son intelligence tout au long du match, et lui aussi sa débauche d'énergie, notamment avec son sprint où le long de la touche, il peut s'écrouler, hein, le mec il peut s'écrouler et obtenir un carton jaune pour l'autre joueur et souffler un peu, et non, le mec il va jusqu'au bout parce qu'il sait qu'il y a possibilité sur l'action de se donner, d'aller chercher le but, et pour tout ce qui représente un gros 8.
Un gros 8 pour Primicio Frankowski. Silvano, est-ce que tu veux noter un joueur?
Bah vas-y, donne un nom.
Allez, Brice Samba.
Brice Samba.
Ouais.
Ouais, pour la parade à une main, je mets 10.
Voilà. Et il est pas loin sur le pénalty.
Il est pas long comme des pamplemousses, comme dirait Georges Eddy.
C'est un peu semblable,
cette prise de balle encore. Tu es en situation de danger et tout. Et en plus, je fais partie de la caste des gardiens de but. Alors, attention. Tu vois, mais il est en situation de danger, quoi. Le mec, il est tellement zen, il dégage tellement quelque chose de fort, là, sur. Ouais, non, franchement, il a encore fait du bon travail, je crois, vraiment.
Ouais, et puis,
il est pas loin sur le péno.
Ouais, sur le péno, il est pas loin, c'est rare, en plus, ouais. On voit qu'il est en colère, d'ailleurs. Mais ouais, même, enfin, voilà. Ouais,
et puis, il rassure dans les airs, dans les moments un petit peu chauds, il y a eu pas mal de centres.
Ouais, bah ouais, à la fin, mais... dire, non, voilà, il y a toujours ce petit côté où. Ici, il s'est gagné du temps sans qu'on se voit trop, etc. Enfin voilà, il a vraiment des petits biscuits comme ça, des petites sucreries à offrir aux arbitres, aux supporters tout le temps. Et c'est un kiff de regarder Brice Tambour jouer vraiment.
Ouais. Et puis quand il a demandé à la Tranin de se lever après le penalty finalement annulé, ouais, sur les Rémois, il a remis encore du. C'était tout simple. Il a levé les bras. Il a demandé. Et ils avaient besoin de ça à ce moment-là. Et ça aussi, c'est hyper intelligent cette malice de jouer avec les gens, de jouer avec le public, ouais, jouer un peu avec
malicieux,
le temps.
Il est malicieux.
Et ça fait partie du football. Voilà.
Ouais, et c'est vrai qu'il nous rassure, il fait partie hein, de ces joueurs vraiment qui font la différence cette année du côté du Racing Club de Lens. On va terminer avec toi Greg, je te donne Facundo Medina.
Ah, Facundo. Ouais. Je vais pas le faire en espagnol parce que Silvano le connaît certainement mieux que moi, le numéro 14, mais c'est vrai que pour le coup, 7 parce que c'est ça Facundo et qu'on est presque devenu habitué en fait à sa faculté de tout faire, de défendre, d'attaquer. Moi, il me fait toujours halluciner, notamment dans les matchs où l'on est en infériorité numérique où il prend quand même l'espace. D'ailleurs, on le voit sur la dernière action, tu dis mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas en ligne médiane alors que c'est le bouillon derrière, et cette folie-là, en fait, elle est hyper importante, parce qu'aujourd'hui, c'est une folie absolument canalisée, c'est-à-dire, quand il est arrivé, où c'était parfois moins structuré, aujourd'hui, on a l'impression qu'il sait tout faire, qu'il amène ce supplément d'âme aussi sur tout le couloir gauche, qu'il gagne les duels sans faire des fautes grossières comme il a pu le faire, même si ça lui en rend encore, mais voilà, et puis dans des matchs comme ça, il faut la grinta, qu'il faut s'arracher sur tous les duels. Bah, c'est un match pour lui, alors je vais lui mettre 7 parce que Facundo Medina, sinon je lui mettrais toujours une énorme note et qu'il faut savoir se canaliser, mais franchement c'est un joueur dans des matchs comme ça, c'est des joueurs extraordinaires qui amènent un truc, et il y a une électricité qui se crée sur le terrain autour de lui et qui est hyper importante pour tenir lorsqu'on subit un match comme ça, et les vagues adverses, même si elles n'étaient pas toujours très efficaces, elles étaient réelles, et évidemment quand t'as vu ou Jonathan Gradi de l'autre côté, on va pas le noter, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est hyper important d'avoir des gaillards comme ça qui y vont.
Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que l'un d'entre vous de décerner un carton rouge ou un carton vert à propos de ce match face à Reims? Antoine Combe commence.
Bon, c'est pas parce qu'il est invité, hein, mais un gros carton vert à l'initiative du club pour avoir emmené le petit sur la pelouse.
Non, avoir leur emmené. Je parlais de Sylvano, d'accord.
Non, avoir emmené le petit Basile sur la pelouse, parce que c'est aussi les belles histoires du football. C'est les belles histoires du football qu'on aime voir, qu'on aime raconter, et donc c'était très sympa de l'avoir récompensé pour sa passion pour le club.
Qu'est-ce qu'on a pensé, Sylvano? Il s'est bien débrouillé, le petit Basile.
Ouais, il a fait le taf vraiment. En plus, on n'a pas répété rien du tout. Et je l'ai rencontré juste avant le match, en fait. Je le connaissais pas finalement. Et bon, il y avait forcément un petit une interrogation. Voilà, c'est oui. Voilà. Et puis tout de suite, ça s'est super bien passé. Il m'a décrit toutes les compos que j'ai fait depuis 2 ans. Ah, telle journée, t'as changé. Mais c'était un peu de fou. Tel jour, t'as changé. Puis lui, tu le fais comme ça. Mais la dernière fois, tu l'avais pas fait comme ça et tout. Donc je me suis dit, ça va bien se passer. Ça devrait aller bien se passer. Et il s'est pas démonté. On a juste prévu un petit plan parce que forcément, il fallait qu'on reste dans le cadre aussi. Mais nickel, franchement, il s'est fait plaisir. Il n'y avait pas l'air un petit peu. Non, par rapport au contexte et tout, non, tu peux pas dire qu'il était forcément stressé. Après, à cet âge-là, je pense qu'ils prennent pas toujours conscience de tout, quoi. Enfin, ils sont un peu, ouais, un petit peu insouciants, voilà, c'est le terme. Mais non, il était prêt, il a juste dit, bon, s'il y a un souci, voilà, mais non, nickel, franchement, c'était impressionnant. Et puis, petit à petit, au début, je suis en train de faire un tunnel, mon Dieu. Et au début, il fallait garder le rythme, quoi. Tu vois, moi, j'étais un petit peu je voulais pas qu'il soit mal à l'aise, en fait. Je me disais, si moi, je déborde sur un joueur, lui, il va avoir du mal à rattraper, etc. Donc, du coup, c'était un peu brut au début. Mais après, la fluidité, elle est venue petit à petit. Puis, on avait prévu, et super bien, franchement.
Le rendu était sympa, en tout cas, ouais. Le rendu était super sympa.
C'était mignon. Voilà. Ouais, c'était un bon moment, un beau souvenir encore, voilà. Un souvenir en plus dans la boîte à souvenirs. Hop là.
Quelqu'un d'autre pour un carton? Vas-y, Greg.
Ouais, plus globalement, sur toutes les cartons rouges, entre guillemets, sur toutes les débats qu'on peut voir actuellement. Est-ce que Lens tiendra le choc en Ligue des Champions? Alors moi, c'est le jeu, hein, c'est le jeu médiatique de tout ça. Hein, je n'ai pas de problème avec ça. Mais en fait,
Est-ce qu'on peut juste la garder? Parce qu'on va passer à l'actu, on va passer à Lens qui est assuré d'être sur le podium. Est-ce que ça te dérange pas, Greg?
Ça me va super bien.
Comme
super
ça, on avance dans le programme et tu peux parler en plus de ce que tu voulais dire. Justement, dans l'actu du Racing, on a appris ça après le match de l'AS Monaco qui a fait un superbe 0-0 face au LOSC. Lens est assuré de terminer sur le podium à 3 journées de la fin. Retour de la Ligue des Champions à Bollaert. Et là, je te lance, Greg, est-ce que selon toi, le Racing Club de Lens est prêt?
Et la question n'est pas de savoir, c'est une très bonne question, parce que pour moi la question c'est pas de savoir s'il est prêt, il le mérite point, il faut arrêter avec l'idée de pour kiffer en fait. Et ce que je veux dire aux gens qui suivent ce club, qui ont vécu la merde pendant toutes ces années, mais ne vous préoccupez pas de ce qu'ils peuvent se dire à droite, à gauche, kiffer, et même peut-être que Lens fera 0 point en Ligue des Champions, et alors, kiffer l'idée que votre club va peut-être faire partie des 32 meilleures équipes d'Europe, alors qu'il était même presque pas dans les 40 meilleurs clubs français il y a encore 4-5 ans. On rappelle quand même que cette équipe, elle a failli descendre en National. Alors arrêtez de vouloir légitimer, crédibiliser, défendre votre truc. Kiffez simplement, perdez pas de temps, prenez tout plaisir qu'il y a en ce moment, prenez-le, bouffez-le, et si on est en Ligue des Champions, bouffez-le, et peu importe ce qui va se dire à Marseille, à Nantes ou à Strasbourg ou je ne sais où sur les performances du Racing Club de Lens en C1, kiffez, bouffez, faites-vous des souvenirs pour l'avenir, parce que, et Sylvain il peut le dire, on a connu une époque où ce club il faisait la Coupe d'Europe tous les ans, et au milieu de ça il a fait une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est vrai, mais le simple fait de voir son club normalement briller à l'international, c'est quand même cool déjà. Et peu importe ce qui va arriver, arrêtez de vouloir dire on verra ce qui se passera, on gardera peut-être les joueurs, on les gardera peut-être pas. Cette équipe, elle mérite simplement d'y aller clairement sportivement. Et ce public-là, vu tout ce qu'il a bouffé, il a le droit de croquer dedans en s'en foutant absolument des débats sur les plateaux de télé qui vont pas dans son sens ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Kiffer, c'est tout, kiffer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et t'as bien raison, Greg. Et je vous ramène également sur le com à lundi de Nico hein, sur culturesanslayer.com, qui est un petit peu la même ligne directrice hein, que toi, Greg. Donc je vous conseille d'aller lire l'article sur culturesanslayer.com. Également dans l'actu du Racing, on a vu hein, cette interview d'Arnaud Pouille, directeur général du Racing Club de Lens à la Voix des Sports. Il y parle longuement du Stade Bollaert, bien sûr du manque de place vis-à-vis de la forte demande. Il dit, je cite, la frustration, je la vis au quotidien. On peut passer quand même autour de 42 000, 43 000 places, c'est ce que dit Arnaud Pouille, en augmentant les zones debout, hein, notamment en train 1 et en 2, la cour 0, avec la suppression des sièges hein, qui sont toujours présents à aujourd'hui. Il a l'espoir que ça passe dès la saison prochaine hein, du côté du Stade Bollaert. C'est un petit peu ce qu'il dit dans l'article. Et puis, pas de fermeture des angles. On l'a un petit peu interrogé là-dessus pour aussi augmenter la capacité. Pas de fermeture des angles. C'est pas en tout cas, c'est pas au menu. Hein. Il dit très bien que le stade perdrait un petit peu de son âme. C'est l'ADN hein, du Racing, ce stade à l'anglaise. Donc c'est pas prévu. Et puis rachat du stade en cours, mais pas un dossier prioritaire, c'est ce qu'il dit également, en tout cas pas au budget 2023-2024. Donc ça suit également son cours, mais pour le moment rien de nouveau de ce côté-là. Et puis il dit à demi-mot quand même que probablement le stade Bollaert sera ouvert pour le match face à Auxerre hein, le dernier match de la saison. Une belle fête au stade Bollaert. Je vois Silvano qui fait des petites moufles. Je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas.
Je mou dans le vide.
Tu mou dans le vide. Voilà un petit peu les infos. Damien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est encourageant quand même qu'on puisse augmenter la capacité du stade Bollaert, notamment en passant plus de personnes debout?
Alors oui, moi je trouve ça plus intelligent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a une forte demande, étant donné que le Racing est en haut. Si demain ça va un peu moins bien, je ne suis pas sûr qu'il y aurait autant de demandes d'abonnement ou autant de personnes voulant aller au stade. Ça permet de... Je pense qu'avec une tribune debout, on verrait nettement moins qu'il y a des trous, certainement, dans la tribune si demain on venait à être au milieu de tableau ou seconde partie du classement. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal après avoir comment ça va se goupiller au niveau des abos, des sections. Enfin, j'avoue, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais voilà, c'est pour moi, c'est une bonne nouvelle.
17 000 demandes de nouvel abo. Hein,
c'est énorme.
C'est assez incroyable au point où on en est. Alors, ce sont juste des demandes, évidemment, mais ça montre l'engouement, en tout cas, qu'il y a autour de ce Racing Club de Lens. Et ça va pas s'arrêter, notamment avec le retour de la Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà, c'était l'actu du Racing. On va siffler la pause, messieurs. On va siffler la mi-temps de ce Culture sans Yor numéro 34, et puis on va jouer. C'est l'heure du quiz de Culture sans Yor, un quiz Culture sans Yor qui se joue en équipe, vous le savez. Quand on a un invité, je le laisse choisir son coéquipier. C'est parti, Silvano, choisis ton coéquipier.
Bah, Antoine, du coup.
Antoine Combes.
Il ne veut pas gagner.
Non, mais ça va peut-être être équilibré. Antoine Combes avec Silvano, Damien avec Greg Lallemand. Je vous donne le thème de ce quiz compo lensoise. C'est une compo qu'il va falloir me trouver. Lens Paris Saint-Germain, premier match de Silvano en Ligue 1, 10 septembre 2020 au Stade Bollaert. C'est parti, la compo du Racing Club de Lens. Ce soir-là, on va commencer par Damien et Greg Lallemand. Un premier nom, s'il vous plaît.
Jean-Louis Leca.
Jean-Louis Lec, c'est très bon. On passe à Antoine ou Silvano, c'est dessus des qui répond, tiens.
Bon, j'en ai un si tu veux.
Vas-y, Antoine.
Bah, le buteur, Ganago.
Ignatius Ganago, c'est bon. Damien, Greg.
Moi, j'aurais dit Facundo Medina.
Vas-y.
Facundo Medina, c'est bon également. On passe à Silvano et Antoine.
Joe Grady,
c'est bon, tout à fait. Greg et Damien.
Loïc Badé.
Ah, Loïc Badé, c'est bon. Ouais. Silvano et Antoine.
Oui, qui était là?
Klaus.
Jonathan Klaus n'était pas titulaire.
Il n'était pas titulaire.
Pas Frankowski non plus.
Moi, j'ai une droite.
Fais le malin, vas-y, tu l'as.
Moi, je pense. Un dernier pour gagner, Greg et Damien.
Bah moi je fais Pérez, Manu Pérez qui était titulaire.
Oui, Manu Pérez c'est bon.
Gaël Kakuta et je crois que c'était Issiaga Silla à gauche.
Tout à fait.
Et à droite, j'aurais dit Clément Michelin, mais je suis pas sûr.
Clément Michelin à droite, exactement. Ouais. C'est vrai que.
J'ai oublié de mon esprit.
Jonathan Clauss était sur le banc des remplaçants, il ne rentre pas dans ce match-là d'ailleurs.
Il avait pas pris carton rouge au match d'avant, il n'était pas suspendu, Michelin.
Non.
Qui ça, Clauss?
Non, Michelin.
Non, Michelin.
Non, pas ce match-là. Non, il était là.
Par contre, le match juste après. Ce début n'est pas titulaire parce qu'on est plutôt au début de saison sur ce match-là et il démarre pas du tout titulaire, Clauss, non?
Sur ce match-là, il est sur le banc.
Non, début de saison, il n'est pas titulaire.
Non, parce qu'en fait, il sortait d'une fin de saison en Allemagne qui s'est finie vachement tard et physiquement, il avait repris un peu plus tard. Voilà. Et Simon Banza n'était pas titulaire?
Ouais, avec Ganago, c'est Simon Banza qui est devant.
Putain, et bam bam, 11 sur 11.
T'as oublié. Hein. T'as oublié Cheikh Doucouré.
Ah oui,
tiens, Cheikh Doucouré.
Ah mais excuse-moi, on n'a pas pu aller au bout. Hein.
C'est gagné pour Greg et Damien. Silvano, t'aurais pu sortir la feuille de match, on l'aurait pas vu.
Bah, je voulais que je la sorte, donc je reviens, j'arrive. Je vais dans les archives.
Bah non, malheureusement, c'est perdu, hein, ça sert plus à rien maintenant.
On a perdu, mais pourquoi on a perdu? Je voulais pas tirer avec Antoine, de toute façon, je me suis trompé.
Bah moi, je me suis dit que ça allait un petit peu équilibrer, vu que c'est un match dont tu as fait la compo. Je me suis dit.
Je les avais, mais je voulais pas. Enfin, ça faisait genre.
Ouais, tu voulais pas faire, ouais. Tu voulais laisser Greg gagner, quoi.
Franchement, c'est tout le temps. La dernière fois que je suis venu dans l'émission, j'avais perdu aussi. Alors, je me suis dit autant entretenir les bonnes relations.
Allez, on passe à la deuxième mi-temps. C'est l'heure du Zoom sur toi, Silvano, le speaker du Racing Club de Lens. Silvano est avec nous ce soir dans Culture Sans Rien. Il nous fait le plaisir de nous accompagner tout au long de l'émission.
Bah, le plaisir est pour moi.
messieurs, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez poser une question à Silvano. Je vous donnerai la parole. Comme tous les invités qu'on a dans Culture Sans Rien, déjà, comment vas-tu, Silvano?
Pas bien.
Super.
Quel supporter à Lensois ne va pas bien aujourd'hui?
C'est vrai.
Petite question. Bon, voilà, non, ça va bien. Merci.
Tout va bien dans la vie. Alors, pour ceux qui te disent peut-être que c'est ton job à temps plein, non, speaker, ce n'est pas ton job à temps plein, il faut le savoir.
Pas mon job à temps plein. Non, pas du tout.
Comment ça se passe un petit peu, du coup, c'est vraiment seulement les week-ends où tu es réquisitionné, voilà, c'est comme ça que ça se passe?
C'est comme ça que ça se passe, ouais. Jour de match, c'est tout.
Ouais. Tu as été capot en Marek, on l'a dit, on l'a répété. Est-ce que tu arrives à aujourd'hui dans le boulot que tu fais en tant que speaker, tu retrouves des similitudes, des connexions avec la période où tu étais capot en Marek?
Il y en a un petit peu, mais ouais. Justement, j'essaye de trouver l'équilibre et j'essaye justement de pas trop mettre ce côté-là en avant en fait. Je pense que j'avais tendance à le faire plus avant, et je pense que pour un meilleur équilibre au niveau du stade, c'est pas forcément vers ce que je dois tendre en fait. Je pense que c'est mieux quand je distribue les plats plutôt que ce soit moi qui fasse la cuisine. Pourquoi je dis ça? Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Je pense que voilà, il y a des similitudes effectivement, mais elles sont vraiment éloignées ou c'est vraiment des coups d'un éloignés. Voilà, mais alors ça peut se présenter comme par exemple le dernier match, de par les circonstances, ça c'est un peu plus, j'ai un peu plus tiré vers le côté animation.
C'est ce que j'allais dire. On a senti ça. Ouais. C'est un peu en ça aussi que je partais sur cette question-là. C'est qu'on a ressenti vendredi que tu t'es adapté justement au fait qu'il manque de blocs dans la Marek notamment, et que t'as peut-être pris plus à ton compte le fait d'essayer de lancer l'animation des tribunes.
Ouais, ben je pense qu'il fallait démarrer le match, quoi. Enfin voilà, fallait poser les bases du match, et c'était juste ça. C'est ce que j'avais en tête. Enfin voilà, mais. Après, comme je te dis, l'idée c'est vraiment ça, c'est de trouver l'équilibre le plus juste en fait, de pas me substituer aux autres gens. Il y a des capots et je suis pas capot. Voilà, je le suis plus en tout cas.
Ouais.
Mais l'expérience que j'ai pu avoir me permet d'enchaîner vite, de rebondir vite, de savoir, de sentir qu'au plus partir vers telle idée ou telle idée, de zigzaguer, etc. Mais ouais. Voilà, l'idée de base c'est ça aujourd'hui.
Tu t'étais imaginé un jour dans ce rôle de speaker du côté du Racing? Non, un jour, ça t'était traversé l'esprit ou pas du tout, non?
Non, jamais. Vraiment jamais. J'y ai seulement pensé quand on me l'a proposé, en fait. Sinon, jamais j'y avais pensé à ça.
Et c'était quoi ta réaction les secondes après qu'on t'ait proposé ça, c'était qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?
J'ai dit il faut que j'en parle à ma femme. Voilà, non mais je me suis dit c'est une opportunité mais fallait que je mette les choses au clair dans ma tête, voire ça coulait pas de source quelque part. Au moment où on a parlé, ça coulait pas de source en fait.
Okay.
Et puis aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, si ouais, ça coulait finalement, ça faisait sens. Mais au moment T, non, il a fallu que je me dise ah ouais, pourquoi pas.
C'est quoi un petit peu ton rituel à chaque week-end quand t'arrives au Stade Bollard, quand tu prépares le match, l'animation du terrain à chaque match? J'ai lu notamment que tu t'as dit que t'aimes respirer Bollard. Ça veut dire quoi que t'aimes respirer Bollard?
Ah, ça c'est quand j'ai l'occasion. C'est dans les matchs samedi, dimanche, comme vendredi, j'ai pas pu le faire. Ouais. Je suis triste quand je peux pas le faire. En fait, je dois arriver 3 heures. Mon taf, c'est d'arriver 3 heures avant le coup d'envoi, en fait. Mais moi, si j'ai l'opportunité de venir 3h45 avant, je le fais parce que j'aime bien. Parce que voilà, j'aime bien me poser en tribune et juste contempler, en fait. Voilà, j'aime bien contempler le stade vide. J'aime bien le regarder. Voilà, c'est bête, mais j'ai passé beaucoup de temps, même quand j'étais ado, etc. Où je venais pour faire des tifos, etc. Bref, et du coup. J'ai tendance à dire il y a une histoire ici, tu vois, enfin ça vibre le stade, même quand on n'est pas là, il vibre, il a son histoire, il y a des gens qui ont connu des moments super tristes, des moments d'émotion, des moments de joie extrême, et je pense que tout ça reste dans l'air en fait. Voilà, j'aime bien y être et m'en imprégner. Ça c'est un premier truc. Ensuite, quand je fais les autres habitudes que j'ai, quand je viens en voiture, il faut que je mette du rap français et il faut que j'articule. Voilà. Donc, je mets des trucs qui vont vite et j'essaye de travailler. J'ai vu des vidéos où des gens faisaient des préparatifs, tout ça. Moi, c'est ça mon truc. Je mets un petit peu de son en rap français et puis, j'aime bien des trucs de diction, en fait. Et puis, après, une fois que je suis au stade, on prend connaissance du conducteur et on commence à voir un peu ce qui est prévu au niveau des animations en particulier. Enfin, ça change d'un match à l'autre. Parfois, il y a des opérations organisées par le club, etc. Donc là, à ce moment-là, je prends connaissance de ça. Et puis le dernier rituel que j'ai, c'est que je fais un tour de terrain. Et ça, je le faisais pas avant. Et je l'ai fait à partir du 10 avril, quand on a battu Nice, là, l'année dernière.
Ouais, l'année dernière.
Depuis que je le faisais, on ne perdait plus. Du coup, je m'étais dit, j'arrêterai jamais de le faire, tant qu'on ne perdra pas. Et puis finalement, on a perdu, mais j'ai continué à le faire parce que ça me permet de croiser les gens. Les gens ils aiment bien me parler. Moi, j'aime bien parler avec les gens, échanger. Ils sont contents. Enfin, on parle. J'aime bien. Je l'ai gardé du coup. Et je continue à le faire.
Ouais. C'est un peu ton rituel, donc à tous les matchs du Stade Bollard. Est-ce que dans ta vie de supporter, dans ta vie de capot, à l'époque où tu étais au stade, t'écoutais un petit peu ce que disaient, ce que racontaient les anciens speakers? Est-ce que t'as des souvenirs comme ça? Est-ce que tu t'en es rappelé au moment où t'as commencé à être speaker au Racing Club de Lens? Je pense à
Est-ce que tu t'es dandiné sur les leaders?
Je pense à Budzinski notamment et compagnie. Est-ce que tu t'en imprègnes un petit peu?
En fait, je pense que je m'en suis imprégné sans m'en rendre compte, en fin de compte, parce que c'est pas quelque chose. Alors, quand j'étais plus capot, vraiment je faisais pas du tout attention, c'est pas d'autres choses à faire, d'autres choses à voir et d'autres choses à penser, à gérer. Mais quand je pense que j'étais plus petit et que Roger était à l'apogée de sa carrière, je pense que je m'en suis imprégné sans le faire exprès, en fait. Je pense que c'est normal. J'ai grandi à l'époque Roger Rudinski, donc forcément, je sais. Mais après, sinon, en dehors des stades de Lens, c'est vrai que j'ai jamais fait attention. Maintenant, je le fais un peu plus, mais pour voir un peu ce qu'ils tentent ou ce qu'ils essayent de faire. Mais sinon, à l'époque, je faisais pas plus d'attention que ça. Mais je pense que, par la force des choses, à force d'être au stade, etc., tu retiens des petits trucs, des petits gimmicks et tout ça. Ouais, tu te rappelles de choses et tout ça.
Ouais. Dans le chat, on a Guillaume qui nous dit en tout cas bravo Silvano, tu es très bon et justement tu me rappelles Roger, donc dans ton énergie. Donc c'est ce que nous dit Guillaume dans le chat de l'émission. Greg, tu veux poser une question à Silvano?
Ouais, j'ai une question qui va remettre un peu tout ça. Tu parlais de droit d'émotion dans le stade. Moi, je me souviens d'un match qui t'avait particulièrement marqué. J'étais pas très loin de toi ce jour-là. C'était le match contre le Milan AC à Bollard, où Lens bat le Milan. Et je me souviens de ton émotion à ce moment-là. T'avais les larmes aux yeux, si je me trompe pas. On va pas rentrer dans le pathos, mais c'était un match où évidemment, voir Lens battre le Milan en Ligue des Champions, ça rejoint en plus l'actu du Racing en ce moment. Et donc, je me souviens vraiment de cette réaction-là où il y avait une vraie émotion et toi aussi. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, dans ce nouveau rôle, est-ce que tu t'imposes une forme de froideur? Et ça, c'est la première question, où tu es obligé évidemment d'être aussi concerné par ce que tu es en train de faire. Et la deuxième question, c'est quelle est finalement l'émotion qui a été absolument impossible pour toi à garder, ou en tout cas le match qui t'a renversé depuis que t'es speaker, au point de t'oublier, je sais pas, mais où l'émotion était trop forte et là c'était compliqué de faire différemment?
C'est une longue question. En fait, j'essaie. La froideur, je pense. Ouais, c'est intéressant comme question, en fait. Mais je peux pas trop. Je pense que ça se ressent. De toute façon, il m'arrive de passer un petit peu le. Allez, pas trop, parce que j'essaye de le gérer. C'est normal, c'est mon travail aussi, entre guillemets, quand je dis travail. Mais voilà, j'essaye de le gérer. Et le match qui m'a vraiment, vraiment troublé, c'était le tout premier où il y a eu du public. C'est vraiment celui-là où j'ai pris conscience de ce que j'allais faire, de ce que je devais faire. Et c'était vraiment, c'est Saint-Etienne au retour d'après Covid. Et celui-là, ça m'a vraiment. Celui-là, je l'ai vécu vraiment avec beaucoup d'émotions, vraiment. Je tremblais, enfin voilà, j'avais la tremblote et tout. J'aurais jamais cru que ça. D'ailleurs, je pensais jamais que ça m'aurait arrivé, tu vois. Donc celui-là, je l'ai vraiment vécu de cette façon-là, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Et c'est celui-là qui m'a chamboulé. Mais les autres, j'essaye de garder justement le fil, quoi. Parce que j'ai toujours que. On a envie de s'enflammer, hein, forcément. Là, tu sais où tout le monde sait où on va là déjà. Donc le dernier match, par exemple, là, après la victoire, on aurait pu. Mais j'essaye de garder quand même le fil conducteur de ce que j'ai à faire, quoi. Il y avait une autre question dans ta question, il me semble, non?
Tu vois, c'était une très longue question, mais ta réponse était courte comme la question, mais beaucoup plus intéressante que la question. Voilà.
Non, mais j'imagine que ça doit pas être simple, la gestion des émotions, malgré tout, comme toi, t'es supporter du Racing Club de Lens. Voilà, ça fait des années, etc. Quand il y a un match incroyable, il y a les buts, etc. La gestion de l'émotion du supporter qui ressort forcément, ça doit être.
J'explose sur les buts de toute façon. Je les célèbre pas de façon disproportionnée, mais t'es obligé. Enfin, t'as le banc qui a 15 mètres de toi, même pas 10 mètres. Tout le monde jaillit du banc et tout, forcément, t'as une espèce de. Enfin, je pense que c'est. Je vais pas dire. C'est logique en fait. Enfin, voilà. Après, ça m'arrive de taper dans mes mains pendant le match, de reprendre un
haussard. C'est ce que j'allais dire. Je t'ai vu, je crois, c'était contre Marseille. Mon regard s'était posé sur toi et j'ai vu que tu avais repris. Bah, pendant que le stade tapait des mains, tu faisais pareil.
Oui, c'est génial. T'es emporté par la foule. Merci, Edith. C'est vrai. Il y a ce côté-là. C'était difficile de. Alors, bien sûr, c'est pas probable de se mettre à courir dans tous les sens. Enfin voilà, je reste à ma place, je suis en place, je suis à disposition.
Tu peux pas faire une Igor Tudor, ouais.
Voilà, ouais, enfin. Quelle folie, lui. Mais voilà, j'ai un statut à gérer, et puis je représente aussi le club, entre guillemets. Voilà, si les mecs ils disent, ils vont faire des rapports, enfin, la ligue est vachement. C'est un des trucs aussi. Positif par rapport à ma nomination, c'est que pour l'instant, j'ai aucun reproche de la Ligue, aucun rapport, aucun retour négatif. Hein. Donc ça, je trouve c'est cool aussi, quoi.
Ouais.
Ça veut dire que j'arrive à apporter ma patte sans non plus sortir du cadre qu'ils imposent. Et ça, c'est un exercice aussi, quoi.
On a dans le chat, comment il s'appelle celui-là, je ne le retrouve plus, RL, pardon, donc c'est des initiales, qui nous dit quel est ton meilleur souvenir à l'époque où tu étais capot. Quel est ton meilleur souvenir aujourd'hui?
Et voilà, on va reparler du Lens Bordeaux. C'est le Lens Bordeaux. C'est le Lens Bordeaux, quoi. Je l'ai déjà dit, je le redis.
Coupe de France.
Ouais, en Coupe de France, le quart de finale, voilà. Ouais. C'est le meilleur souvenir en tant que capot, c'est celui-là.
Ouais. Et puis aussi, on a Guillaume qui nous dit, bah du coup, tu parlais de, tu écoutes du rap français dans la voiture. C'est quoi ta playlist? C'est quoi ta chanson préférée?
Méloman. J'ai pas de chanson. C'est Méloman, c'est pour Grégory. J'ai pas de chanson préférée. J'ai pas de playlist. Je suis vraiment hyper éclectique en musique. Aucun souci. La clé USB, c'est jamais la même. Ça serait compliqué de dire. J'écoute ça. Si je dois aller en ce moment. Alpha One en ce moment, parce que par rapport à son rythme, sa diction, etc., j'écoute beaucoup Alpha One en ce moment. S'il fallait donner quelqu'un, voilà.
Ouais, bah, c'est bien, t'as répondu en tout cas. Antoine, vas-y. Ouais.
J'ai une petite question. T'as été un peu propulsé sur le devant de la scène finalement ces derniers temps, notamment par Prime, qui te met souvent en avant-match. Comment tu gères ça? Parce que bon, c'est quand même un sacré coup de projecteur qu'on met sur ton travail. Donc finalement, d'un côté, c'est très bonne chose parce qu'on reconnaît ta qualité finalement alors que t'es speaker que depuis peu finalement. Et comment tu gères ça toi?
Bah moi quand Prime le fait, je le vois pas en fait. Enfin, ils font leur truc et peu importe, ça change rien en fait quand Prime le fait. Par contre, Canal l'a fait au dernier match et ils étaient un peu plus impliqués parce qu'ils ont mis la caméra, ils ont amené les journalistes pas trop loin de moi, etc. Donc c'était mon rituel, il a été un petit peu mais je veux dire j'avais d'autres
sans rentrer en fait j'avais des...
ouais voilà et j'avais des yeux que je croisais des regards alors que d'habitude je croise pas de regards, donc c'était bizarre à un moment, mais voilà je l'ai bien fait. Et sinon c'est intéressant dans le sens où voilà ils mettent en avant notre travail, enfin quand ils le font pour les autres aussi, les autres speakers des autres stades, voilà ils mettent en avant une forme de travail. Moi, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas outre mesure. Après, le match est fini. Voilà, terminé. Moi, j'ai Prime, j'ai plus de contact avec eux avant ou après. C'est eux qui gèrent. Moi, si ça leur fait plaisir de qu'ils nous passent, tant mieux. C'est bien. Ils ont l'air d'apprécier ce qu'on fait. Enfin, voilà, c'est cool.
Damien,
tu as répondu à ta question ou tu voulais...
Non. très bien répondu. T'es prêt pour toutes les interviews.
Damien, une question pour Sylvano.
Ouais, alors on a parlé justement de la gestion des émotions, la gestion justement de la télé. Moi, j'aimerais revenir sur la partie gestion de l'animation justement un petit peu. Est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a encore même des décalages justement avec les groupes sur l'animation en tribune, sur le lancement, sur l'après-match, enfin est-ce qu'il y a des échanges? J'imagine que, enfin, tu connais encore beaucoup de monde justement dans les tribunes, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup d'échanges justement avec les groupes sur cette partie animation?
Il y a des échanges, ouais, c'est normal. Enfin, de pas s'isoler, de vouloir. Enfin voilà, c'est bien qu'on travaille ensemble. Des échanges, il y en a. Ça peut être quand il y a des animations, quand il y a des tifos par exemple. Là par exemple, ces derniers temps, j'ai repris la main pour la Lançoise. On s'était mis d'accord sur ça parce qu'on cherche à l'optimiser et c'est pas encore le cas. Donc on sait qu'il y a un peu de travail sur ça aussi. Ouais. On échange sur les après-matchs. En général, après, je peux échanger aussi aujourd'hui en fait. Juste un regard, juste un geste de la main, on se comprend. On a déjà par le passé travaillé ensemble. Donc parfois ça va vite, suffit qu'on se regarde, on fait, et puis ça passe. Mais ouais, il y a des échanges forcément.
Dans le chat, on a Thibaut Dezolti qui nous dit, en tout cas, Sylvano, je t'adore, tu motives tout le stade et ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir également de recevoir ce genre de message, j'imagine. Dernière question avant de passer la projection pour l'Orient, t'es prêt pour l'Europe du coup, Sylvano?
Prêt pour l'Europe?
Bah ouais.
L'année
prochaine, à Bollard.
Bah ouais.
Est-ce que tu révises un peu ton anglais du coup?
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Elle va falloir faire comme Roger. Hein.
Ouais, je l'ai fait une fois en plus au stade. J'ai rendu deux hommages. J'avais fait le temps additionnel dans une autre langue et j'avais fait le but de Rose. Ouais. Mais donc voilà, ouais, on se prépare. Après, je sais que, par exemple, je sais que l'UEFA vient avec quelqu'un qui annonce dans l'autre langue en fait. D'accord. Donc j'ai pas besoin de réviser l'autre langue, fin de compte. Même si j'ai rêvé de parler norvégien par exemple. apparemment, ça sera pas
cool. Le même style.
Voilà, donc on verra. On verra bien. Ce qui m'inquiète entre guillemets, c'est qu'ils vont peut-être avoir un super gros cahier des charges et peut-être qu'on pourra pas jouer comme on a l'habitude de faire, mais on s'adaptera.
Avoir autant de liberté, tu veux dire?
Il y a la petite musique prend du temps.
Comment?
Il y a la petite musique qui prend du temps. Il y a la petite musique qui prend du temps aussi.
Il faudra se caler avec la musique, ouais, effectivement. Donc
plein de petits trucs, mais c'est que du bonus, effectivement.
C'est un bonheur, ouais, j'imagine.
Ouais, c'est clair, non, mais c'est clair, c'est fou quand on y pense. Il y a 3 ans, enfin, voilà, tu débarques en plein Covid, là, il se passe rien, tu te dis, bon, bah. Et puis finalement, l'année prochaine, tu vas retrouver l'Europe, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est dingue.
Merci Silvano, en tout cas, tu restes avec nous, évidemment, hein, pour la projection. On termine. Ouais, tu t'en vas.
Oui, je reste avec vous, bien sûr.
On va se projeter en Bretagne tout de suite, à Lorient, dans le Morbihan, puisque Lens se déplace au Moustoir dimanche. 17h05, le Lorient de Régis Lebris, évidemment, qui réalise bien une belle saison, hein, 9e à aujourd'hui. Pourtant, Lorient a été amputé de 2 joueurs majeurs, hein, au mercato d'hiver. Ouattara et Terem Mofi. Lorient avait fait une très bonne première partie de saison. Ils terminent le championnat sans pression, hein, puisqu'ils n'ont plus grand-chose à jouer. Ils sont sauvés tranquillement. La Coupe d'Europe est inaccessible, hein, d'ailleurs. Il me semble que c'est joué pour eux. Ils jouent sans pression, ils préparent peut-être déjà un petit peu l'année prochaine, ils peaufinent leur tactique, leurs enchaînements peut-être. Attention à ce match face à Lorient. Peut-être que sur les 3 qui nous restent, c'est celui qu'on doit peut-être plus craindre comme adversaire, Damien.
Carrément. Là, pour le coup, dire qu'il ne joue plus rien sans pression, je suis pas trop d'accord.
D'accord.
Parce qu'on voit que ces derniers matchs, justement, ils sont plutôt présents. Ils ont été chercher une victoire au Parc des Princes. Non, c'est une équipe dont il va falloir se méfier, avec beaucoup de talent, avec Romain Febvre notamment, alors que j'affectionne particulièrement dans le jeu. Koné qui se remet à claquer quelques buts depuis quelques journées. Non, c'est solide, ça joue bien. Il y a aussi une identité de jeu, hein. Pendant un moment, on a beaucoup fait le parallèle entre Régis Lebris et Franck Hayes.
Il y a quelques similitudes, alors c'est peut-être pas autant abouti du côté de Lorient, mais c'est vrai qu'on voit des similitudes, comme tu dis, Damien. Ouais.
Première saison, hein, pour Régis Lebris, on verra dans 2 ans où il en sera justement avec cette équipe, s'il est encore là, bien entendu, mais non, ça va être un très beau match. Le plus dur, effectivement, certainement dans le jeu. Mais voilà, le Racing va faire ce qu'il faut faire pour nous ramener ces 3 points. Et bon, on va espérer un autre résultat chez le voisin durant le week-end.
Antoine, on se souvient du match aller. Alors, même si le Racing gagne largement au final, ça n'avait pas été si simple que ça. Et puis, on se souvient également du match de coupe, hein, qu'on a joué de Coupe de France du côté de Lorient. Similitude avec ce match-là. Pas de Kevin Danseau non plus face à Lorient ce week-end. Lorient, attention, Antoine.
J'ai envie de dire, déplacement à Lorient, c'est toujours attention, parce que moi, j'ai très peu de bons souvenirs de déplacement de Lens à Lorient. L'époque de Moreira, j'ai pas vu le match, hein, forcément, j'étais trop jeune. Donc, j'ai peu de bons souvenirs. Et forcément, oui, attention, parce que c'est une équipe qui est joueuse. Donc, une équipe qui joue, forcément, moi, je me méfie plus d'une équipe qui est joueuse qu'une équipe qui va bétonner. Donc, ça va être un match très intéressant, de toute façon. Et tu parlais de l'absence de Danseau, on a gagné sans Danseau à 10. Donc, avec un joueur en plus, bon, ce sera pas forcément plus difficile. Et surtout que bon, on verra certainement Aïdara dans l'axe. Et il a Non, vous êtes pas d'accord?
Non, je suis pas sûr qu'on verra forcément Aïdara, mais vas-y, je te laisse finir.
Bon, moi, je vois Aïdara. Voilà, moi, je vois Aïdara. et il a montré à maintes et maintes reprises qui pouvait largement remplacer dans l'axe. Le match le plus compliqué, ce serait dire que les 2 autres seraient plus faciles, et il n'y a aucun match qui est facile en Ligue 1, et ça, on l'a suffisamment vu. Mmh. Et par exemple, les équipes qui vont jouer à Angers, qui n'a plus rien à jouer et qui est enterré depuis plusieurs matchs, et ben, on l'a vu, Marseille hier, même s'ils ont ultra dominé, ben, il y a un moment du match où ils étaient menés au score. Mmh. Donc non, je voudrais pas dire que c'est le plus compliqué, parce qu'en fait, c'est trop facile de dire ça, parce que pour moi, sur les 4 derniers, le plus compliqué, c'était Reims, finalement. Donc oui, forcément, plus on avance, à chaque fois, ça va changer. Donc, pas forcément plus compliqué, mais en tout cas, c'est sûr, ce ne sera pas facile.
Greg, Antoine disait, Lorient, une équipe joueuse, c'est vrai, hein, c'est une équipe quand même qui joue assez basse et qui aime beaucoup le jeu de transition, prendre la profondeur, ça, on l'a assez vu notamment. Et Antoine disait, je suis un peu plus acquis face à une équipe joueuse plutôt qu'une équipe qui bétonne. Est-ce que c'est un petit peu ton avis également?
Je pense que ce qui doit faire peur, c'est la qualité, au-delà de l'aspect technico-tactique, et c'est la qualité de cette équipe, avec des joueurs vraiment de qualité, effectivement, qui s'est projeté vite, elle a des joueurs offensivement qui pèsent dans tous les sens du terme. C'était vrai que Terrem Office, elle est aussi encore aujourd'hui, même un degré moins depuis qu'il est parti, mais tout de même. Donc peu importe, c'est une équipe, je trouve, qui est capable de faire beaucoup de choses, justement, qui a une palette très, 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 très large. Ce qui est dingue, c'est qu'à l'aller, elle revient 2-2 dans un match où pour le coup, elle est surdominée. Et pour le coup, moi, je n'avais pas senti de crainte à Bollaert, et ça avait fini dans un 5-2, feu d'artifice, tout ce qu'on veut. Mais c'est une équipe qui a de la qualité partout, qui est effectivement un peu libérée quand même d'impératifs, et surtout qui va jouer chez elle. Et on a vu des équipes vraiment galérer là-bas. Donc voilà, moi, je pense, par contre, tactiquement, il va falloir voir quand même l'absence de Danso parce que moi je vois pas Aïdar dans l'axe, en tout cas pas dans axe en tout cas, donc ça va forcément modifier quelque chose.
Ah oui, non, ça c'est sûr.
Oui, il sera défensif, voilà, Massadou Aïdar devrait jouer, mais est-ce qu'on va revoir une défense à 4? D'ailleurs, la première fois que Francaise a joué à 4, c'était à Lorient en Coupe de France. C'est la première fois qu'il avait testé avec notamment Jean Onana dans un rôle de défenseur axial. Donc voilà, après la palette, elle est, malgré l'absence de Danso, il y a de quoi faire évidemment côté Lensois. Et surtout, et comme le disait très bien Sylvain tout à l'heure, il y a quelque chose de cette équipe, elle semble en mission, elle est habitée. Elle sait très bien qu'elle peut faire un énorme coup ce week-end. Évidemment, elle connaîtra en plus le résultat de Lille-Marseille. Alors pour le coup, imaginons juste un match nul à Pierre-Mauroy la veille et une victoire de Lens à Lorient. Et quoi qu'il arrive, vous jouez la deuxième place dès la réception d'Ajaccio la semaine d'après. Alors ça, c'est que de la fiction, mais ça doit être quand même un destin qui doit guider les sang et or en Bretagne, avec l'idée de pas se louper simplement. Et aussi vrai que dans le passé, notamment 2006-2007, dans ces matchs hyper importants de fin de saison, on avait senti de la fébrilité au moment d'attaquer le sprint final pour la Ligue des Champions. C'est pas du tout ce qu'on ressent actuellement, donc voilà, j'ose espérer que ça se passera bien pour les sang et or, même si c'est un match évidemment très compliqué parce qu'il y aura de la qualité partout en face.
Ouais. C'est bien, c'est Greg, t'as à peu près répondu aux 4 points que j'avais notés sur mon papier, donc comme ça, une réponse.
Le duel à distance avec l'OM, pas faire d'erreur pour la deuxième. Enfin, bref, Kevin, qui pour remplacer
Parfait,
Kevin
bon, on y va.
C'est bon, on peut plier bagages. Mais j'ai quand même demandé son avis à Damien. T'es d'accord avec ce que dit Greg? Peut-être une défense à 4 du côté du Racing, pourquoi pas, pour pallier l'absence de Kevin Danso.
Bah, dans tous les cas, moi je vois bien Jean Onana titulaire. Alors soit dans un 4-3-3 en pointe basse, ou soit dans le 3-5-2 comme on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, Francaise le fait rentrer durant le dernier match. Il rentre dans la défense à 3. Jean Onana est capable. C'est un joueur costaud, physique. Bon, il ne va pas aussi vite que Kevin Danso. Mais dans la relance, on sait qu'il a cette qualité technique pour tenter de bien relancer. Et moi, je le vois plutôt titulaire qu'un Massadou Aïdara, justement, qui pourrait très bien être titulaire en piston. Hein, ça, je ne dis pas, mais je ne le vois pas dans la défense à 3, en tous les cas.
Tu ne vois pas dans la défense à 3. Et puis, on parlait, Greg, de ce duel à distance avec l'OM, Antoine Combes. C'est vrai que l'OM joue la veille, hein, et a un match compliqué hein, du côté de Pierre Mauroy. Comment tu crois que ça peut jouer dans les têtes du Racing au moment du coup d'envoi au Moustoir?
Oui, forcément. Même si, peut-être inconsciemment, où ils auront le discours de non, peu importe le résultat du match d'avant. On jouera ce match comme on doit le jouer, ça c'est une certitude, mais forcément dans un coin de leur tête. Je pense que si Marseille ne gagne pas, déjà il y aura inconsciemment un peu moins de pression vis-à-vis du match, vis-à-vis du résultat à faire à Lorient. Mais on va revêtir nos plus beaux habits que nous n'avons pas, j'espère, de supporters lillois. Ce sera la première fois de ma vie que je voudrais une victoire du LOSC, je pense.
On va garder cet extrait, on va le décontextualiser après.
Non, mais surtout, c'est que Lille a tout intérêt à gagner pour essayer d'aller chercher Monaco et pour se protéger de Rennes et de Lyon. Donc c'est aussi en ça que moi je suis optimiste sur ce match. Donc nous, on dit qu'on a un match compliqué à jouer à Lorient. Je pense que Marseille a un match encore bien plus compliqué à jouer à Lille. Hein. Donc, faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont un calendrier et un match à faire. Donc, on aura forcément un gros œil sur ce match.
En tout cas, ça va être passionnant jusqu'au bout cette saison de Ligue 1 pour le Racing Club de Lens, ce duel avec l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain, hein, qui en gagnant sera champion de France le week-end prochain, mais ce duel avec l'OM va perdurer au moins jusqu'au bout pour le Racing Club de Lens. Il est temps de pronostiquer ce match, ce déplacement du côté du Moustoir pour le Racing Club de Lens, 17h05 dimanche. Greg, ton prono?
Alors moi je dirais un but partout, but de Jonathan Grady, parce que j'ai dit la semaine dernière en conférence de presse, je me suis fait reprendre un peu par Franquès sur la question qu'il montait beaucoup moins que les années précédentes, mais il a marqué un but cette année, plus et un plus que l'année dernière. Reste, ouais. Donc que Jonathan Grady vienne se moquer de l'après de ma question et de la presse après son but égalisateur à Lorient, mais je vois malheureusement pour Lens, je sais pas si c'est un très bon résultat, ça dépendra surtout des résultats des Marseillais, mais je vois un but partout dans ce match au Moustoir.
Antoine.
Optimisme légendaire, 3-1 pour Lens.
Damien.
2-1 pour le Racing.
Et Sylvain, est-ce que tu veux pronostiquer ce match?
On va gagner, voilà.
ça me suffit, hein, moi.
J'ai déjà pris position, je prends position quand même.
Moi, le score, je m'en fiche, hein, moi, tant qu'on gagne.
Exactement.
Le score, je m'en fiche. Merci beaucoup, Sylvano, d'avoir été l'invité de Culture Senior ce soir. C'était chouette. Ouais, c'était chouette de partager ça avec toi.
De parler un revenir peu de... et toujours perdre le quiz.
Ouais, mais n'hésite pas la prochaine fois encore.
Tu peux agir à demi avec l'IPA.
Merci Antoine Combes, merci Damien, merci Greg Lallemand pour vos lumières, évidemment. Toujours très intéressant de faire ces émissions avec vous. Merci à tous ceux qui nous regardent tous les lundis soirs, qui nous écoutent en podcast, évidemment. Vous êtes fidèles, vous laissez des commentaires, ça nous fait plaisir, on les relaie à nos invités et puis ça nous aide également. À vous proposer ces émissions toutes les semaines. Continuez à le faire, continuez à vous abonner. Merci à Robin, à la technique ce soir également. Rendez-vous sur culturesandailleurs.com pour y retrouver tous nos articles, bien sûr. Mercredi, notamment le débrief des jeunes et de la N3 par Clément, hein, et notamment les U19 hein, qui vont jouer les playoffs avec un quart de finale au Stade Bollard.
Ouais, il y a les filles qui jouent ce week-end.
Il y a un gros derby.
Exactement.
Pour
le maintien. Pour le maintien des féminines en deuxième division. Bref, tout ça à retrouver dans Culture Sans Yor sur notre site internet, dans l'émission. On se retrouve très vite. Belle semaine à vous et allez le Racing. Ciao.
Merci à vous.